La Voix du Partage, le podcast pour cultiver la douceur de vivre au quotidien. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent vivre plus de tendresse dans la vie de tous les jours. Nous avons le choix à chaque instant, entre le sourire ou la grimace, entre les mains ouvertes qui veulent caresser ou les poings fermés qui veulent se défendre. Ici, à chaque épisode, je propose de vous emmener dans un dialogue à travers différents thèmes qui jalonnent le quotidien d'une vie humaine et vous transmettre quelques clés pour cultiver la douceur de vivre dans nos journées. Avec Sanji Rambwatiana, cofondateur d'Arthas Entraide, je voudrais vous partager un nouveau regard sur l'intériorité humaine. Puissent ces échanges vous inspirer de façon concrète. Aujourd'hui, les parents ont accès à beaucoup d'informations, conseils en tout genre pour tenter d'être des super parents. Mais si c'était nos enfants, les premiers à nous enseigner? Dans cet épisode, nous allons aborder quelques enjeux de vie que traversent nos enfants, selon leurs âges, et essayer de sentir ce que ça veut dire, être une bonne maman, un bon papa. Et c'est peut-être pas toujours ce qu'on imagine. Bonjour Sanji.
Bonjour Estelle.
On se voit aujourd'hui pour parler de ce qui se joue en nous quand on est parent. Être une bonne maman, un bon papa, ça veut dire quoi? De mon côté, j'ai deux enfants, une fille de 8 ans et un garçon de 11 ans. Et je me suis posé beaucoup de questions en tant que maman avec la peur de mal faire. Je voudrais te questionner, Sanji, sur un premier point. Pour se préparer à la naissance, on a plusieurs séances de préparation à l'accouchement. C'était très chouette, mais aucune séance de préparation à être parent. Ça m'a toujours interpellée. La naissance, c'est un jour, et être parent, c'est pour la vie. Alors, je me suis lancée dans tout un tas de lectures pour savoir comment prendre soin de mon bébé. Et assez vite, j'ai senti les limites de toute cette connaissance et de mon envie d'être une maman parfaite. Et par exemple, quand mon enfant pleurait et n'arrêtait pas de pleurer, eh bien j'avais beau connaître plein de choses, j'étais dans une détresse à ne pas pouvoir le consoler et arrêter ses pleurs. Détresse qui était peut-être d'ailleurs accentuée par toute cette connaissance et qui me culpabilisait encore plus de ne pas savoir comment réagir et surtout d'être mal avec ça. Et je voudrais bien ton avis par rapport à ça.
Alors Estelle, la première chose que j'aimerais préciser, c'est le point de vue dont je vais parler est un point de vue de l'intériorité humaine. Je parle de ça parce que je me sens légitime, parce que moi-même j'ai été père. Moi-même j'ai deux enfants, ils sont grands aujourd'hui, ma fille a 21 ans et mon fils a 23 ans. Mais moi aussi j'ai été comme toi, j'ai été confronté à des limites de papa. La remarque dont tu fais part, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, c'est sûr, on peut lire beaucoup de bouquins sur la psychologie des enfants, on peut essayer de se préparer à être parent, mais en fait, rien ne nous y prépare vraiment. Je pense que devenir parent, c'est changer d'état intérieur. Notre cœur va commencer à muter et se transformer. Ou bien se rendre compte que jusqu'à ce qu'on ait des enfants, en fait, nous avons une vie très centrée sur nous-mêmes, dans laquelle on s'intéresse, c'est sûr, un peu à nos compagnes, à nos compagnons. Mais avec l'arrivée d'un enfant, il y a un truc très particulier, c'est que tout d'un coup, un être apparaît dans notre vie qui va compter plus que nous. Et ça, on n'y est pas préparé. Et je crois qu'aucune lecture ne peut vraiment nous y préparer. Tout d'un coup, voilà que notre enfant pleure, et nous, ça nous serre le cœur. C'est la première fois que ça nous arrive, en fait. Que la souffrance d'un être nous concerne tellement qu'on la ressent comme si c'était la nôtre. Et cet état-là, il est déstabilisant au début, parce qu'on ne sait pas trop comment le gérer. Mais fondamentalement, le rôle de parent, et tu l'as très bien décrit, c'est tout d'un coup les pleurs de notre enfant nous empêchent de nous consacrer à nos tâches ordinaires, parce que sa souffrance prend le pas sur le nôtre. Pour ma part, je me souviens d'un moment où ma fille était rentrée de l'école, elle avait 6-7 ans, elle pleurait parce qu'elle s'était disputée avec sa meilleure copine. Et moi, je rentrais du travail et j'avais encore du boulot. Alors, je lui dis 2-3 mots vite fait comme ça, je monte, je me mets sur mon ordinateur. je commence à rédiger une note et tout d'un coup, je vois que j'arrive pas du tout à me concentrer en fait. La souffrance de ma fille m'habite. Il faut que j'arrête de travailler pour redescendre, la prendre sur mes genoux et lui dire « Mais raconte-moi ce qui se passe. » Et elle m'a dit. Et ça m'a fait découvrir quelque chose que je n'avais pas mesuré, c'est à quel point le meilleur ami de notre enfant, en fait, et pour nous ça a été la même chose, parce qu'il m'est revenu des souvenirs de ma propre enfance, où notre meilleur ami, en fait, c'est pas juste un ami, c'est comme un premier amour, en fait, qui est en train de nous préparer peut-être à la première rencontre qu'on va faire quand on sera adolescent, des grands amours qui vont nous bouleverser le cœur. C'est pas juste une copine avec laquelle elle s'est disputée, c'est elle a le cœur déchiré par une rupture amoureuse. Et il faut le sentir, ça. Il faut prendre du temps pour ça. Et les livres ne nous le décriront jamais. Je pense qu'en fait, la grande éducation que les enfants vont nous donner, parce que c'est peut-être aussi, nous on les éduque, mais eux aussi, d'un certain point de vue, ils nous éduquent. Ils vont nous renvoyer à nos propres blessures d'enfants, à nos propres histoires d'enfants. Et on a besoin de se reconnecter avec qui nous avons été, non pas avec la tête, non pas avec les souvenirs, mais en essayant de sentir avec le cœur celui que nous avons été à cet âge-là, ou en traversant tel ou tel événement que notre enfant traverse à son tour. Il faut que nous le sentions depuis le dedans. Et les enfants vont nous éduquer à ça. Ils vont nous convier à aller apercevoir ce qui nous est arrivé, non pas du point de vue de nos souvenirs, mais du point de vue des expériences intérieures que nous avons vécues nous-mêmes. Et c'est parce que cette expérience, nous allons la sentir à l'intérieur de nous-mêmes, comme si nous la revivions, comme si nous la retraversions à nouveau, qu'on va sentir ce qui est en train d'arriver à notre enfant. En fait, les enfants, ils vont nous inviter à quelque chose de fondamental, c'est ils vont nous ouvrir le cœur, pas la tête. On a beau lire, c'est vrai, tu as raison, moi aussi j'ai fait pareil, j'ai lu. Mais il y a des choses que j'arrivais pas à sentir de mes enfants. Ce qui m'a permis vraiment de rentrer en contact avec le monde intime de mes enfants, c'est de rencontrer à nouveau ma propre histoire, d'en comprendre les événements majeurs, de sentir depuis l'intérieur ce qui m'arrivait, pour au moment où ça arrivait à mes enfants, pouvoir les sentir depuis dedans. Alors depuis dedans, j'ai pu leur dire les mots que moi-même enfant j'aurais tellement aimé entendre. Et je pense que c'est ça en fait la grande éducation que les enfants nous octroient, c'est ils nous reconvoquent à notre propre enfance, ils nous reconvoquent à notre propre adolescence, pour que nous retraversions depuis l'intérieur tous ces événements-là, parce que c'est depuis ça qu'on va pouvoir les sentir et pouvoir les aider. Donc ta question est très pertinente, être parent nous convoque à un travail d'introspection sur nous-mêmes, non pas de connaissances psychologiques, mais d'essayer de sentir son cœur, sentir avec son cœur qui nous avons été en ces instants-là, parce que eux, ce qu'ils retraversent, c'est exactement la même chose. Donc oui, quand ton enfant pleure, il faut que tu te replonges toi-même dans les instants où cette petite fille pleurait, pour sentir ce qui lui arrivait, pour essayer de sentir ce qui arrive à ta fille à ce moment-là, ou à ton fils.
Ouais, justement, ça me fait penser à un événement là plus récent, mon fils qui est rentré en sixième et c'était difficile pour lui. Il n'avait pas le moral tous les matins et j'étais pendant un grand nombre de matins en mode coaching, remontage de moral. Et je voyais bien que voilà, ça l'aidait un peu, mais pas tant que ça. Et à un moment donné, je lui ai justement plus ouvert mon cœur et je lui ai confié, moi, mes difficultés quand j'étais rentrée en sixième sur l'un ou l'autre événement où ça avait été difficile pour moi. Et j'ai senti voilà, que ça avait un petit peu plus aidé.
Et ouais, parce qu'en fait, les enfants, ils souffrent de quelque chose de très important. Les enfants, ils ont très bien compris quelque chose, c'est que les adultes ne sont pas parfaits. Mais ils ont aussi aperçu que les adultes essayent de prétendre qu'ils le sont. Et quand un enfant lui dit, tu sais, moi aussi j'ai traversé des difficultés, tout d'un coup ça leur ouvre un champ de perception, une perspective extrêmement importante, parce qu'on est en train de leur dire, tu sais, moi non plus, j'ai pas toujours été parfait, mais j'ai réussi à vivre avec cette imperfection. Et c'est ça que je voudrais te dire, c'est pas très grave que tu sois, que t'aies pas tellement le moral le matin quand tu vas à l'école. Ce qui compte, c'est que t'essayes. C'est que t'essayes d'y aller, que t'essayes chaque jour d'aller un peu mieux. Voilà moi comment, ce que j'ai vécu, voilà moi comment j'ai essayé de le traverser. Et tout d'un coup, les enfants, ils perçoivent que c'est pas être parfait qui compte, c'est être imparfait et avoir un peu de tolérance, un peu de pardon sur nos propres limites. Ça, les enfants, ça les touche beaucoup. J'ai traversé un exemple un peu similaire avec mon fils. À une époque, mon fils devait être en classe de peut-être CE1 ou CE2. Je suis convoqué à l'école et on me dit, vous savez, votre fils, il a du mal à apprendre. Et pour moi, ça a été un séisme, en fait. Moi, j'ai fait des études longues. Je me suis lancé dans un doctorat. Bref, j'ai toute ma vie essayé de prouver que j'étais très intelligent. Et voilà que mon fils, on me dit, mais votre fils, il ne comprend rien, en fait. Et pour moi, c'était un séisme, ça. Alors, comme tous les parents, comme tu le disais, en mode coaching, j'ai commandé sur Internet toute une série de manuels scolaires. Et quand il rentrait de l'école, le soir, je le prenais. Et on faisait des exercices, et encore, et encore. Et ses résultats scolaires ne cessaient d'empirer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, après une longue journée de réflexion, c'est peut-être pas la bonne solution. Et je me suis aperçu qu'en fait, moi-même, dans mon propre passé, il y a eu un moment donné où j'ai traversé une époque comme ça, où j'avais de très mauvais résultats scolaires. Et je me revois assis à mon bureau en train d'essayer de m'appliquer dans un exercice, et en fait, j'y arrive pas. Et je fais tout, en fait, si j'observe bien ce petit garçon, je fais tout pour pas y arriver. Parce qu'en fait, j'attends qu'une seule chose, je voudrais que ma maman vienne s'asseoir à côté de moi et qu'elle m'aide. Ma maman, elle est loin tout le temps. Et ce petit garçon, il n'a qu'une seule option, c'est être mauvais à l'école pour attirer l'attention de sa maman et qu'elle s'occupe un peu de lui. Et tout d'un coup, je me rends compte de quelque chose, c'est en fait, mon fils, il attend qu'une seule chose. C'est pas que je lui fasse faire des devoirs en plus, en fait, il veut passer du temps avec son papa. Et ça, je n'avais pas compris. Et il a tellement ce souci-là qu'il essaye de me faire comprendre qu'il est exactement comme moi, c'est-à-dire avec les mêmes problèmes scolaires. Et là, ce qui me vient tout de suite, c'est je vais faire à mon fils ce que j'aurais tant voulu que ma maman me fasse. Je dis à mon fils, écoute, c'est pas grave, t'as pas des super résultats scolaires, mais tu sais ce qu'on va faire, on va faire une activité ensemble. Alors je suis allé jouer au tennis avec mon fils, j'ai joué au badminton avec mon fils. Toutes les semaines, j'essayais de me dégager une demi-journée pour qu'on passe du temps ensemble. Et comme mon fils est un fanat de sport et que moi aussi, j'aime ça, les activités physiques, on partage un moment ensemble. Et je crois que c'est la confiance que j'ai placée en mon fils à ce moment-là. Se dire non, j'ai pas cru qu'il était incapable d'apprendre comme me le reflétait l'école. Je crois que mon fils, en fait, il ne me demandait qu'une seule chose, c'est « Papa, j'ai besoin de passer du temps avec toi ». Papa, j'ai besoin de toi. Et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Je pense que les enfants, entre 6 et 10 ans, ils ont vraiment besoin de leur papa. Parce que leur papa, c'est une force de protection. Une force de réassurance. Et ils ont besoin de se confronter à leur papa, d'être avec lui, de partager des expériences. Et d'ailleurs, quand je jouais au tennis avec lui, je ne faisais pas de cadeaux. Parce que c'est ça qu'ils voulaient. Il voulait une vraie complicité, une vraie rencontre. Pas que je fasse semblant de le laisser gagner. Il voulait vraiment jouer avec son papa, essayer d'être plus fort. Parce que c'est en essayant d'être plus fort que son papa qu'il grandit et qu'il prend confiance en lui-même. Même s'il n'y arrive pas, c'est pas très grave. Tout ça pour te dire quelque chose d'essentiel, c'est à nouveau, je crois que mon fils, là, à ce moment-là, il m'a convoqué à m'inventer papa. Et à lui faire vivre ce que j'aurais tellement voulu vivre, moi, dans ma propre enfance. En fait, je crois que les enfants, ils nous convoquent à ça. Nous inventer super papa, super maman, en essayant de reconnaître notre histoire, de l'aimer, parce que ma mère, je suis sûr qu'elle a tout fait pour, à ce moment-là, essayer de m'aider, mais à sa façon. Essayer de recomprendre son histoire, essayer de leur faire, à nos enfants, ce qu'on aurait tellement voulu que nos parents nous fassent. Et nos enfants, ils attendent pas des cadeaux, ils attendent bien sûr des caresses, ils attendent de l'amour, mais ils attendent aussi qu'on leur donne une certaine confiance en jouant le rôle que nous devons jouer avec eux. Avant, dans la période précédente, dans les 0, 4, 5 ans, l'enfant il est plus tourné vers sa maman. Il a besoin que sa maman le réconforte, lui donne un espèce de cocon, dans lequel il a une espèce de relation privilégiée avec sa mère, qui va peu à peu lui apprendre l'exploration de tout le monde extérieur, apprendre à parler, apprendre à bouger, et le rassurer, effectivement, dans cette espèce de rapport quasi fusionnel, en fait, où l'enfant sent tout de sa maman. Puis plus tard, quand commence l'école, là, c'est plutôt papa qui va compter. Et on verra tout à l'heure sans doute que dans l'adolescence, il y a d'autres enjeux. Je pense que nos enfants, ils nous conduisent à ça, en fait. Et c'est d'apercevoir à chaque fois dans la tranche d'âge dans laquelle ils sont, quels sont leurs besoins particuliers. Non pas dans ce qu'ils disent, parce que un enfant, c'est un étranger pour nous. Il n'a pas les mêmes valeurs que nous, il n'a pas les mêmes comportements que nous, il n'a pas les mêmes attentes que nous adultes. Nous, on les voit vivre à côté de nous, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'ils vivent vraiment dans un autre monde avec d'autres enjeux. Et il n'y a qu'en passant par notre propre histoire, qu'en passant par l'ouverture de notre propre cœur, que nous pouvons apercevoir en réalité quel est le monde particulier dans lequel il est là, dans cet instant.
Alors justement, tu dis donner confiance à l'enfant. Et la question qui me vient, c'est est-ce que pour donner confiance à l'enfant, c'est important que les deux parents soient d'accord sur tout, notamment devant l'enfant ? J'ai remarqué en fait que c'était très difficile dans les faits, que même si on a beaucoup de valeurs en commun avec mon compagnon, inévitablement il y a des situations où on n'a pas le même avis. Et ben, en fait c'est pas facile de me taire sur le moment et de différer la discussion, ce que j'imagine être voilà, une solution plus adaptée, différer la discussion pour qu'elle se passe uniquement entre adultes et qu'on arrive à se mettre d'accord et à tenir un discours commun ensuite devant l'enfant. Et sinon, bah, quand j'interviens, parce que j'arrive pas à me retenir et que j'exprime un avis différent dans l'instant, bah, j'ai l'impression de mettre mon compagnon en porte-à-faux, de le décrédibiliser. C'est pas très agréable pour lui, ni pour moi en fait, parce que dans tous les cas, je suis pas tranquille. Alors j'aimerais bien ton éclairage là-dessus.
Alors à mon avis, ton intuition, elle est juste. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu as pressenti, c'est un enfant, ce qui le rend heureux, c'est de rendre ses parents heureux. Il se trouve que pour une certaine raison, il est arrivé dans cette famille et il a un rôle à jouer avec ses parents. Et à chaque fois qu'il arrive à rendre ses parents heureux, ça le rend heureux. Et très souvent, les enfants qui vont pas bien, c'est parce que entre les parents, ça va pas très bien. Et qu'en fait, la plupart du temps, nous aimerions questionner notre enfant et le remettre en cause pour que lui aille mieux, alors qu'en vérité, il vaudrait mieux questionner le couple et ses difficultés de fonctionnement à cet instant-là, parce que tout couple évolue, tout couple traverse des épreuves, tout couple aussi peut se relever de ces épreuves. Et c'est ça que l'enfant, il a besoin d'entendre. L'enfant, on peut pas faire semblant devant un enfant, il sent tout, en fait. Ils ont des organes d'essence et un cœur qui est tellement ouvert qu'on ne peut pas leur jouer la comédie. Ils sentent quand c'est vrai ou quand c'est faux. Alors bien évidemment, c'est aussi quelque chose de fondamental. Les parents ne peuvent pas être toujours d'accord. Toi et ton compagnon, vous avez votre propre histoire, vous avez votre propre culture familiale, vous avez reçu chacun une éducation différente. Il est donc normal qu'il y ait des lieux de divergence. Il est donc normal que par moment, vous ne soyez pas d'accord. L'enfant, ce dont il a besoin, c'est il a besoin de voir ses parents parfois ne pas être d'accord. Il a besoin de le voir, ça. Parce que ça fait partie de la réalité de la vie humaine. Mais il a besoin de sentir aussi que même si ses parents ne se sont pas entendus devant lui, il a besoin de les sentir se réconcilier devant lui. Ça fait partie du message qu'on évoquait tout à l'heure. T'as vu ? Mon fils, ma fille, parfois ton père et moi, on n'est pas d'accord. Parfois même on se dispute. Parfois même on se dispute violemment. Mais il y a un truc qui est sûr, mon fils, ma fille, c'est que même si on n'est pas d'accord, on va essayer de se réconcilier et que chacun puisse vivre qui il est avec sa différence devant vous. Mais pour vous, nos enfants, nous allons essayer de dépasser nos différences pour essayer d'avoir un même point de vue. Parce que c'est ça aussi qui va vous donner un cadre et vous rassurer. Parce que les enfants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'un cadre. Un enfant, il a besoin de sentir des limites. Alors, surtout, je dirais, dans cette période de l'enfance, entre 6 et 10 ans, il y a besoin d'un cadre, parce que le cadre familial les rassure. Parce que dehors, quand ils sont dehors et qu'ils vont à l'école, ils sont dans un milieu sur lequel ils n'ont pas la main. Un milieu qui les déstabilise. Ils ont des copains avec qui ils s'entendent à l'instant, puis ils s'entendent plus. Ils ont des instituteurs qui leur prêtent une attention parce qu'ils ont des bons résultats et ne leur prêtent plus après. Et ce monde un peu, mouvant, les déstabilisent profondément. Et ils ont besoin, lorsqu'ils retournent à la maison, de trouver là un cadre clair. Donc il est normal que les parents essayent de dépasser leurs différences pour essayer de proposer à l'enfant un cadre éducatif qui est clair et sur lequel ils s'entendent. Mais l'enfant, il n'est pas fou. Il sait très bien qu'entre son père et sa mère, il y a des différences. Mais ce qu'il veut sentir, c'est que par amour pour lui, ses parents vont essayer de se dépasser. Et ça, c'est ça qui le rassure. Donc, qu'il y ait divergence de point de vue, c'est pas grave. Qu'il y ait même une divergence de point de vue qui s'exprime devant eux, c'est pas très grave. Ce qu'ils ont besoin, c'est que voir leurs parents se réconcilier dans un geste tendre devant eux. Ça leur montre que même quand il y a des problèmes, en fait, il y a toujours des solutions.
Oui, je sens bien que la présence de nos enfants nous donne cette force, en fait, de nous dépasser. Et ça,
je pense que c'est en ce sens-là que je dirais que les enfants sont nos maîtres spirituels. Ils nous obligent à nous dépasser, c'est-à-dire à recomprendre notre propre histoire pour, à partir de cette histoire, d'abord nous mettre en paix avec, puis leur offrir ce que peut-être nous, on aurait tellement voulu recevoir qu'on n'a pas pu leur donner. Je parle pas de choses extérieures, là. Je parle d'une attention, d'une tendresse. Ils nous obligent à nous entendre conjoints, différents, à nous entendre et à nous dépasser dans nos différences. Puis ils vont nous inciter aussi à nous bouger, à aller réussir matériellement pour leur offrir un cadre de vie dans lequel on sent qu'ils sont en confort, quoi.
Ouais, alors Sanji, quand tu dis nous voir dans notre propre histoire, là j'ai un exemple qui me revient avec ma fille qui veut régulièrement s'habiller en garçon. Et je me suis rendu compte que ça m'irritait fortement. Et en fait, ça venait parler de moi. En me posant dessus, j'ai senti que ça reflétait ma difficulté à assumer, moi, de m'habiller de façon très féminine. Et bien, quand j'ai pu en sourire, il nous est arrivé d'en faire un jeu, enfin, de transformer cet instant d'agacement en un moment de complicité, à décider certains jours de s'habiller toutes les deux vraiment en fille.
Alors, ce que tu évoques, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est nos enfants, ils nous aiment. Ils nous aiment à un point que parfois nous n'imaginons pas. Ils nous aiment tellement d'ailleurs qu'ils veulent tout faire comme nous. Ils veulent être pompiers comme papa, manger des haricots verts comme maman. Bref, nous sommes leur modèle. Et ils nous sentent dedans. Ils sentent qui nous sommes dedans. Et très souvent, comme ils nous aiment, ils vont vouloir nous imiter à l'extérieur, manger des haricots verts, mais aussi à l'intérieur. Et ce que nous sommes, ils vont le mimer en le démultipliant. Si bien que la plupart du temps, ce qu'on voit chez nos enfants, c'est des reflets de nous-mêmes grossis dans un miroir. Et qu'en fait, ce en face de quoi nous sommes, c'est sommes-nous en paix avec qui nous sommes dans nos travers. Parce qu'ils nous imitent dans nos qualités, mais ils nous imitent aussi dans nos travers. Tout à l'heure, j'évoquais les difficultés de mon fils. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est comme moi, je pensais et que je n'étais pas tout à fait en paix avec ça, que je suis un homme limité intellectuellement. C'est ce que j'ai longtemps cru de moi, parce que c'est comme ça que j'ai attiré l'attention de ma mère, je l'ai dit tout à l'heure. C'est en jouant, excusez-moi l'expression, mais au débile, au con, que j'ai attiré l'attention de ma maman, qu'elle se mettait à côté de moi pour m'aider à faire mes devoirs. Et c'était le seul moment où je l'avais pour moi. Le reste, elle était happée par les travaux ménagers, happée par les soucis avec mon papa, happée par les soucis avec ma sœur. Moi, il avait bien fallu que je trouve une stratégie pour l'avoir un petit peu avec moi. C'est ça que j'avais fait. J'avais décidé, inconsciemment bien évidemment, de jouer le rôle du cancre pour l'avoir un peu avec moi. Mais mon fils, il a très bien senti ça, que j'étais pas encore complètement en paix avec celui qui avait eu tant besoin de jouer au cancre à l'école. Alors, pour attirer mon attention, il a décidé de jouer au cancre, voire au super cancre, pour avoir l'attention de son papa, pour que je m'arrête et que je me tourne vers lui. En fait, il était en train de m'imiter dedans, en me disant « Papa, je t'aime. Papa, regarde, je suis exactement comme toi. » Mais aussi pour me dire « Papa, occupe-toi de moi. » Donc nous sommes avec nos enfants devant des miroirs grossissants de nos travers et les miroirs grossissants de nos qualités. Ils nous aiment tellement qu'ils vont nous imiter à l'exagération. Et en fait, lorsque ta petite fille fait ça, elle est ni plus ni moins en train de te convoquer toi-même, hein, comment moi je pourrais être encore plus féminine. Et si tu l'as, ça, alors elle va, elle, devenir de plus en plus féminine. Moi, comment j'ai fait avec mon garçon? Je me suis arrêté et j'ai essayé d'aimer au fond de mon cœur, moi, petit garçon, jouant au cancan. Et ce que j'ai découvert très étonnamment, c'est que plusieurs années plus tard, mon fils m'en a parlé en me disant, mais en fait, j'ai découvert que c'était pas si grave, en fait, de pas être si bon à l'école. Et ça, ça m'a libéré. Aujourd'hui, il suit des études de kiné, les problèmes sont résolus, mais en fait, il m'a convoqué à plus d'amour pour moi-même. C'est ça que je dirais. Et de ça, je lui suis reconnaissant, parce que c'est lui qui m'a éduqué à ça. En ce sens-là, il a été mon maître spirituel, pour que j'aie plus d'amour pour moi.
J'aimerais que tu nous dises un mot peut-être sur être maman ou papa d'un adolescent. Moi, c'est pas encore le cas, mais ça va pas tarder. Donc, j'ai pas d'exemple concret, mais voilà, j'imagine que notre posture de parent, elle évolue à cet âge-là.
Alors, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, dans la petite enfance, quand l'enfant est petit, il a besoin d'être rassuré par la présence de sa maman. Qui va, et la relation est très forte entre l'enfant et la maman. Parfois, nous les papas, d'ailleurs, on en est jaloux. On a l'impression qu'on compte moins. Mais c'est normal, en fait. Cette présence très forte de la maman va stabiliser l'enfant psychiquement. D'ailleurs, alors c'est peut-être certains diront un raccourci, mais si on regarde dans la nature, souvent, pendant tous les premiers mois ou tous les premiers jours, la maman et l'enfant vont avoir et le petit vont avoir une relation très forte, et le mâle surveille le territoire pour que cette relation ne soit pas perturbée. Ça, c'est notre premier rôle, en fait. La maman, dans la petite enfance, doit avoir une présence, et a souvent, parce que l'enfant en a besoin, une présence très forte auprès de son enfant, et ça va le rassurer. Plus tard, on l'a vu, dans l'enfance, les rôles s'inversent. À ce moment-là, c'est papa, force de protection, papa, le super héros qui rassure l'enfant par sa présence et par le cadre qu'il va mettre avec la maman, bien évidemment, à l'éducation de l'enfant. L'adolescence est différent. L'adolescence, c'est maintenant, il est l'heure de se tourner vers l'extérieur. Et l'adolescent, il a besoin d'être encouragé dans des expériences qui le tournent vers les autres et qui le tournent vers le monde. Mais c'est aussi le temps des grands amours. Les premiers amours tumultueux, on va aimer comme un fou, on va être chagriné comme un fou parce que ben, ça n'a pas fonctionné. Et là, les parents, ils doivent avoir un rôle qui est un encouragement à la fois à se tourner vers le monde extérieur, mais aussi à préserver cette maison cocon qui permet, lorsqu'on a des chagrins, lorsqu'on n'est pas très bien dans les expériences du monde que l'on est en train de vivre, de pouvoir retourner, se ressourcer et à nouveau être, allez, on va dire, le petit de ses parents, reprendre confiance et retourner dehors. Donc le rôle des parents, j'allais dire, dans l'adolescence, c'est l'indépendance contrôlée. Permettre à son enfant de faire des expériences d'indépendance familiale de plus en plus marquées, de le laisser s'affirmer dans ses goûts et dans ses différences, parce que c'est ça qu'il essaye de dire. Il essaye de dire, mais moi, je voudrais être autonome de mes parents, je voudrais être une personnalité un peu différente, et je suis en train de découvrir tous les sentiments amoureux, et ça c'est déstabilisant, toute la sexualité, et ça c'est déstabilisant, parce que c'est des registres dans lesquels je sais pas me comporter, je sais pas agir. Et là, nous, il faut que parents soient en capacité de redonner un cadre rassurant à l'enfant. Donc l'adolescence, c'est un moment très particulier. Et là, les adolescents, ils vont nous enseigner quelque chose de très fort à nos parents. Les adolescents, ce sont des maîtres de sentiments amoureux. Ils aiment, et ils aiment pour de vrai. Nous, plus tard, adultes, on sera moins purs dans nos sentiments amoureux. Mais les adolescents, ils aiment pour de vrai. Et je suis toujours touché de voir les adolescents s'expérimenter dans leur premier baiser, dans leur premier geste tendre. Parce que quelque part, ça nous renvoie à nous, adultes, devant « Et toi, quelle est la vérité de l'amour que tu ressens ?» pour celui ou celle avec qui tu vis là maintenant. Donc les adolescents, c'est ça, à mon avis, le monde dans lequel ils vivent. Et je dirais que si on regarde bien à chacune des étapes, les enfants nous ont convoqués à nous réinventer, nous, en tant qu'adultes. Dans toute cette dimension de la petite enfance, ils nous demandent d'être des parents tendres. Parce que les enfants ont besoin de ça à cet âge-là. Ils ont besoin de sentir une tendresse infinie. Et ça, ça les rassure. Dans l'enfance, on a besoin d'être des parents autorités. Pouvoir leur dire, ça, ça se fait, ça se fait pas. Et c'est très important parce qu'on est en train de les socialiser. On est en train de leur apprendre à vivre dans un groupe. Et c'est pas toujours simple d'être un parent qui applique l'autorité. Souvent, on est coupable. Souvent, on a l'impression qu'on en a trop fait. Souvent, on a l'impression qu'on en a pas assez fait. Ils vont nous habituer à trouver une autorité juste. Et l'autorité juste, c'est pas celle qui est dans les livres, c'est celle que nous, on sent au fond de notre cœur. Puis plus tard, adolescents, ils vont nous inviter à nous réinventer parents amoureux. Parce qu'ils sont tellement puissants en amour, et ils nous observent d'ailleurs, et ils essaient de voir est-ce que nos sentiments amoureux pour notre conjoint sont sincères ou pas. Et c'est la sincérité de l'amour que nous allons porter à celui ou celle avec qui nous partageons notre vie, qui va leur donner l'espoir que l'amour existe ou n'existe pas. Je crois vraiment que nos enfants, nous avons à les éduquer pour qu'ils puissent vivre avec les autres et vivre dans le monde. Mais je crois que nos enfants aussi nous éduquent, nous aussi, à être plus vrais, plus sincères, bref, à être plus authentiques dans nos sentiments amoureux. Je pense vraiment que nos enfants sont nos premiers maîtres spirituels.
Merci Sanji.
Merci Estelle de m'avoir donné la parole.
J'espère que ce partage vous a apporté quelques clés pour trouver ce qui est juste pour vous dans votre vie et vous aidera à faire un pas de plus pour mieux aimer et vous laisser aimer. Si ce regard a éveillé votre curiosité, que vous avez envie d'expérimenter, vous pouvez écouter le podcast « On s'arrête ensemble ». Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à faire un tour sur le site internet artas.org. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir. Soyons contagieux de douceur. Le monde en a bien besoin. À bientôt !